Bonjour et bienvenue au show Minter Dialogue, épisode numéro 103. Aujourd'hui, nous sommes le 19 avril 2020. Je suis Minter Dial, votre compère et hôte pour ce podcast. Mon invité, c'est Boris Janicek, un ami de longue date, qui est un entrepreneur français d'origine israélo-croate. Son parcours professionnel l'a amené à évoluer dans des univers de marques luxe et premium au sein des grands groupes internationaux, et notamment dans le secteur des cosmétiques et de l'art de vivre. Il a rejoint L'Oréal quand j'y étais moi-même en 1999 aux États-Unis. Puis il a travaillé dans le groupe Estée Lauder, où il était à la direction de la marque Clinique au Benelux et en France. Ensuite, il devient CEO de la Maison de la Durée en 2017, pour ensuite rejoindre le groupe LVMH à la tête de la division des vins de Moët Hennessy. Dans cette conversation avec Boris, nous parlons de la transformation digitale, des enjeux et les clés de succès pour les marques de luxe. Vive le luxe ! Plongeons alors dans cette nouvelle émission. Boris Janicek, bon Dieu, comment est-ce qu'on est arrivé là ? Ça fait des années qu'on se connaît. On s'est rencontrés à New York, me semble-t-il. On est devenus amis, je connais ta famille, tu connais la mienne. Et maintenant, tu es basé à Paris et je voulais prendre cette occasion d'enregistrer un podcast avec toi parce que tu as fait un très, très beau parcours dans le luxe. Et je voudrais ainsi parler de toi et du luxe. Boris, dans tes termes à toi, comment est-ce que tu voudrais te présenter ?
Bonjour Minter, je suis ravi de t'entendre. Ravi d'échanger avec toi sur ce sujet. Le luxe, j'y ai exercé dans plusieurs secteurs du luxe, ou au moins dans des secteurs premium, dans des domaines premium du luxe, sur des marques aussi différentes, allant du soin, des soins beauté chez L'Oréal, quand on s'est rencontrés, ou chez Estée Lauder, et en allant jusqu'au vin haut de gamme aujourd'hui dans le monde entier chez LVMH et en passant par la direction de la Maison à Durée, le savoir-faire et la gastronomie à la française.
Que les belles marques.
Des jolies marques, des jolies maisons.
Alors Boris, en vue de tes expériences diverses dans le luxe, comment est-ce que tu définirais ou qualifierais ce qu'est le luxe aujourd'hui ?
Mon constat sur cette définition du luxe, sur ce secteur du luxe, c'est qu'il n'y a pas qu'une définition du luxe, mais bien plusieurs approches qui convergent à une proposition et peut-être encore plus vers une expérience qui est attendue par les consommateurs. Le luxe, je dirais qu'il est éternel en plus d'être pluriel. Éternel parce qu'il ne date pas d'hier, le luxe. On a trouvé des tombes d'Homo sapiens qui datent de 30 000 ans où des squelettes étaient recouverts de perles noires et de bijoux. Les Grecs avaient déjà aussi une passion pour les vins rares. Et il est pluriel parce que le luxe dépasse la simple notion marchande pour répondre à une quête qui est beaucoup plus profonde d'enchantement. Le luxe est un concept dans lequel peuvent coexister l'art, le design, l'architecture, les vêtements, mais également des choses sans prix. C'est le silence, tout simplement. Hein. C'est s'asseoir la nuit dans un jardin pour admirer les étoiles. Pour moi, c'est ça le luxe. C'est très, très pluriel. Certains peuvent aussi qualifier de démesure. Je ne pense pas que le luxe, ce soit la démesure. Le luxe, c'est une sorte de concept à tiroir qui ne fait pas nécessairement basculer l'homme dans le registre des passions. C'est une émotion, ça c'est certain. Ça renvoie au plaisir individuel. Mais il est aussi tout simplement entré dans l'âge hypermoderne, le luxe, comme le reste de la société finalement. Il s'est diversifié avec le mastige en proposant au grand public de s'offrir des productions de créateurs de luxe. Donc c'est comme ça que je vois le luxe. Il est pluriel, il est éternel et il a de l'avenir.
Waouh ! Alors, comment est-ce qu'on identifie le luxe ? Parce que s'il est pluriel, où est la ligne, la frontière entre ce qui est et ce qui n'est pas le luxe ?
La frontière, elle n'est pas fixe, elle n'est pas figée. On s'en rend compte qu'au détour des différents univers qu'on peut rencontrer dans ces différents secteurs du luxe et qu'avec le temps, sa définition évolue. Avec les canaux aussi d'accès au luxe, sa définition évolue. C'était il y a quelques années, il y a quelques décennies, encore une exclusivité et c'était dans un souci qui n'était pas nécessairement démonstratif. C'était le fait d'avoir son château en province, c'était la possession de tel ou tel bien. Je pense qu'on est passé dans un âge où le luxe est devenu quelque chose d'un petit peu plus ostentatoire Et aujourd'hui, on est moins dans l'ostentatoire, on est moins dans le bling, on est dans une nécessité d'avoir un objet, de posséder quelque chose qui puisse te projeter dans une dimension dans laquelle on n'est pas forcément encore entré. Il y a une dimension inspirationnelle qui est très très forte. Et cette notion évolue au fil des temps, au fil des générations, mais également au fil des canaux de communication du luxe.
Mais ça aussi, ça change beaucoup culturellement, puisque le luxe exprimé ou vécu en Chine, en Russie, aujourd'hui est encore plus dans une apparence, dans un bling, que ce l'est dans les pays mûrs où le luxe a existé et a été plus accessible pour plus de gens, plus de temps.
Absolument, et d'ailleurs les marques essaient autant que faire se peut de décliner leur image et leur marque de manière différente, local relevant, en fonction des régions, en fonction des cultures, en fonction des pays. Il y a toujours cette volonté en fait d'être sans compromis quand on parle d'une marque de luxe et quand on l'exprime. Les marques auraient ce souhait de vouloir exprimer un fil conducteur, un fil rouge qui serait autant d'attache à l'identification de la marque d'un bout de la planète à l'autre, et pour autant c'est impossible. C'est extrêmement compliqué parce que les ressorts, les leviers ne sont pas les mêmes, effectivement, comme tu dis, d'un pays à l'autre. Donc il faut pouvoir s'adapter, ça nécessite un petit peu de flexibilité, un peu de souplesse de la part des marques, sans pour autant tomber dans une caricature d'une adaptation qui serait trop locale et sur laquelle la marque perdrait son origine et son ADN.
Quand tu parles de luxe là, en termes de comment on le regarde, il y avait un côté, ce que j'ai entendu, qui est de la quête de la perfection ou d'une sublimation de l'objet ou du service. Il y a aussi dans un imaginaire quelque chose qui est au-delà de nous, qui est plus loin que nous. Alors, quelle est la valeur de la marque là-dedans? Parce qu'en fait, comme nous sommes tous les deux des hommes du marque, cutting. La marque est censée être quelque chose avec des valeurs et dans lequel je pense qu'on devrait pouvoir s'associer. Et donc, si c'est tellement inaccessible, imaginaire, parfait que nous ne sommes pas, comment est-ce qu'on peut créer une marque qui nous parle?
Je pense que la marque ne cherche pas à être parfaite, en tout cas ne devrait pas prétendre être parfaite. Et une marque qui s'ancre durablement auprès des consommateurs doit aussi être capable de montrer alors ses failles peut-être, mais à défaut au moins de l'émotion. C'est là où le canal du digital aujourd'hui est très très intéressant parce que c'est un formidable relais de ce qui peut se passer également en boutique. Il y a ce besoin de créer une émotion. C'est l'émotion qui va permettre de créer cette expérience. Et loin de chercher la perfection, une marque qui va toucher les consommateurs, qu'elle soit luxe ou pas d'ailleurs, doit être capable de créer ce lien de manière forte, de partager un vécu, de faire référence à son histoire, mais également peut-être de montrer ce qu'elle a de plus authentique et de montrer ce qu'elle a de plus sensible. C'est pas une marque, mais je pensais à un visuel que j'ai vu hier, je crois que c'est sur Instagram, où je voyais Natalie Portman, cette magnifique actrice qui en fait montrait deux photos d'elle, l'une après l'autre. Et on voit Natalie Portman en fait assise sur une espèce de chaise royale, un fauteuil magnifique, parée dans un sublime habit de plumes, je crois, blanche, et autour d'elle tu vois quelques paires de mains qui s'affairent, qui la coiffent, qui la maquillent. Voilà, elle est divine, elle est magnifique, et on la sent star jusqu'au bout. Et juste après la photo qu'elle poste, c'est elle chez elle, confinée, et on la voit sans maquillage, sans fard, pas coiffée, en train de manger un bon gros brownie. Et je trouve ça super comme image pour illustrer peut-être un peu ta question aussi, Nipper. C'est la marque montre ce qu'elle a de plus beau, ce qu'elle a de plus parfait, ce qu'elle a de plus sublime. Et puis en même temps, elle montre qu'elle a ce côté sensible, qu'elle peut toucher par l'émotion. Tout comme Nathalie Portman en fait montre aussi son vrai visage, sans fard, sans maquillage, avec un petit sourire et un petit clin d'œil pour montrer qu'elle est là, qu'elle est humaine. Ce n'est pas juste une superbe femme qui est apprêtée et habillée par les plus grands couturiers et maquillée par les plus grands maquilleurs, mais qu'elle a aussi ce petit côté, cette intimité, en fait, par lequel elle crée ce lien avec le consommateur et avec ses fans. Et je ne pense pas que cette photo, cette deuxième photo de Nathalie Portman, chez elle, en train de manger son brownie, je ne pense pas que cette photo nuise à son image de star, bien au contraire.
Oui, je suis d'accord. Et j'imagine la conversation qu'elle a eue avec son agent en disant « Mais comment tu fais ça ? Mais ça va cracher sur toi. » Alors, qui, toi, comme moi, ayant travaillé dans des groupes, on va dire, qui touchent le luxe, pour ainsi dire, sur L'Oréal, on avait des agences qui aidaient sur la communication. Et la question est, comment arriver à montrer dans une organisation qui est souvent avec plein de boss, plein d'inputs qui arrivent de droite et gauche, y inclut l'agence de communication, arriver à faire passer le message de la deuxième image de Nathalie Portman. Car en fait, comme on vit dans un air où, enfin, dans une entreprise où on a besoin d'approbation, approuver, entre guillemets, l'imperfection, devient très compliqué à faire. Car en fait, ça sous-entend que je sais qui je suis au début en tant que marque. Et comme on a tous une part de vérité, quand on est dans une entreprise avec un certain nombre de boss et gens qui parlent, ben, chacun a sa vision de ce qu'il sait. Alors par rapport à Nathalie Portman, c'est elle qui parle. C'est elle qui est Nathalie Portman. Et donc, dans une entreprise, comment est-ce qu'on arrive à faire passer cette imperfection?
Ça, c'est toute la question des marketeux et des bons ou des mauvais marketeux. C'est aussi la question de, c'est Bob Kennedy qui disait « Seuls ceux qui prennent le risque d'échouer spectaculairement réussiront brillamment. » Et j'aime bien cette citation parce qu'elle renvoie à ton propos. On se doit d'être un petit peu les trublions de la communication, les trublions des messages qui seront vraiment disruptifs. Il est toujours beaucoup, beaucoup plus rassurant de se cantonner aux images parfaitement réussies et ou retouchées. Et il est en même temps du devoir de ces départements marketing et communication de tenter la rupture et de tenter la disruption en proposant des approches nouvelles. On a pu connaître tous les deux des entreprises, des univers où ça gesticulait pendant longtemps pour dire qu'il fallait impérativement passer au digital. Et puis finalement, quand il s'agissait de devoir trancher sur quelles seraient les lignes du budget sur lesquelles on investirait l'année prochaine, bon, le digital était relégué aux oubliettes et puis voilà, était nécessairement... On se disait que, OK, on verra l'année prochaine. On n'est pas tout à fait sûr de savoir comment ça va avancer, mais on verra l'année prochaine. Et on se rend compte que finalement, ceux qui ont réussi à prendre ce virage rapidement, avec intelligence, sans toutefois tout miser sur le digital, parce que la manœuvre est aussi dangereuse, c'est un moyen moteur comme un autre, c'est un canal de communication comme un autre. Mais justement, c'est un canal de communication comme un autre. Ceux qui ont été les premiers à le comprendre ont peut-être réussi à sortir l'épingle du jeu de manière un peu plus efficace que les autres. Au même titre, il est du devoir de sortir des sentiers battus et de proposer des alternatives un petit peu différentes lorsqu'il s'agit de communiquer autour de personnes, autour de marques. Ce sont des paris. Mais finalement, qu'est-ce qu'il y a à perdre ? Et là, on parle d'innovation. Qu'est-ce qu'il y a à perdre ?
Oh, l'innovation, bon Dieu, je peux échouer. Oh,
bon
catastrophe.
Dieu, oh là là. Et qu'est-ce qu'il y a au final à perdre ? Pour gagner, il faut risquer de perdre. C'est tout aussi simple que ça. Qu'est-ce qu'il y a à perdre ? Et parfois, et dans les grands univers corporate, on l'a vu également, une supposée innovation, une intelligente et brillante innovation sera tellement triturée, passée au filtre de tant de contrôle, qu'au final, on en sortira quelque chose de relativement insipide, qui aura été bordé dans tous les sens et qui n'échouera pas, mais qui ne sera pas une innovation break through the clutter.
Ouais.
Comme un autre. Ça ne percera pas. Ça sera une nouveauté. Ça ne sera pas révolutionnaire. Alors que peut-être, si cette innovation de départ avait été actée telle quelle, avec le petit grain de folie qu'elle peut avoir, non seulement elle aurait pu percer et faire une vraie, vraie différence sur le marché, mais en plus de cela, il est certain que cette innovation serait sentie plus tôt qu'en passant par ces différentes étapes. Donc il y a aussi une question de vitesse et de pénétration sur le marché avant les autres.
Tu me fais penser au grain de beauté là, au grain de beauté de Marilyn Monroe. Car si on avait besoin de faire un dessin d'une jolie femme, mettre le grain de beauté, d'accord, okay, où? Et j'imagine se torturer sur non, mais il faudrait le mettre là. Donc toutes ces questions autour qui font qu'on perd du temps. Tu as parlé tout à l'heure de l'émotion à travers le canal qui est le digital. Parle-moi de comment chez vous, dans les entreprises, où tu as travaillé l'émotion dans le canal digital afin d'arriver à transmettre une histoire plus intéressante, plus accrochante et plus vraie.
Ben, je reprendrai ma dernière expérience professionnelle, à savoir dans l'univers des vins et spiritueux. C'est un univers fabuleux, en fait, où on a affaire à des spécialistes, à des personnes qui sont à la fois artisans, scientifiques, qui réussissent à te produire quelque chose d'absolument divin, des nectars. Et ce sont des histoires qui sont très, très difficilement transmises et transposables, en fait, sur le canal classique, en fait, de vente de ces vins spiritueux dans les magasins. En gros, quand tu te balades chez un distributeur, chez un négociant, tu tombes sur des bouteilles qui sont très joliment habillées, décorées. Mais enfin, en général, c'est quoi? C'est la communication que tu reçois en constatant telle ou telle marque, c'est une étiquette et c'est un prix. Basta. Ça s'arrête là. Tu n'as absolument rien de la magie qui pourtant existe dans l'élaboration de ces vins. Le digital te permet ici d'aller fouiller et de partager avec tes consommateurs, qu'ils soient très avertis, experts en vin ou novices, de partager les fabuleuses histoires que tu as derrière ces vins, derrière l'élaboration de ces vins. L'élaboration d'un vin, c'est un véritable conte de fées. C'est magique de bout en bout. C'est souvent situé sur un site spectaculaire. Je pense au domaine de Aoyun, qui est localisé au bord du Mekong, la rivière Mekong, sur les contreforts de l'Himalaya, ou à Terrazas de los Andes, qui est ce vin dans la cordillère des Andes, en Argentine. La création d'un grand vin, ça passe par une incroyable succession d'étapes, où tu as ces artisans, ces viticulteurs, ces œnologues. C'est en fait une vraie alchimie qui est faite d'arrêt de science, et ça se termine dans le verre de celui qui aura la chance de déguster. C'est toutes ces étapes qui conviennent partager, et c'est toutes ces étapes que tu peux partager par un canal digital. Alors après, tu as certaines réglementations légales qui viennent, en l'occurrence, en ce qui concerne les vins, limiter la communication que tu peux en faire. En France, c'est la loi E20 qui date de 1991, je crois, et tu as des lois similaires dans pas mal de pays qui sont même parfois plus strictes que la loi E20, plus contraignantes. Mais on a par le canal digital cette possibilité de partager ces fabuleuses histoires. Fabuleuses histoires. Alors, en ce qui concerne le portefeuille des vins dont je m'occupe chez Wet & See, c'est extrêmement important. Et la raison, en fait, en est très simple, c'est que qui a la chance d'aller visiter ces fabuleux vignobles en Nouvelle-Zélande, en Argentine, en Californie, en Chine, au milieu de l'Himalaya, en Espagne, c'est plus proche, mais enfin, c'est pas donné à tout le monde non plus. C'est un véritable voyage qu'on propose, en fait. Et c'est une occasion fabuleuse de faire découvrir la magie. On n'est pas encore entré dans cette dimension de faire partager cette magie par la réalité 3D, mais c'est en cours d'élaboration. On n'est pas encore prêt, on ne l'a pas encore mis en place sur le portefeuille des vins chez Wet & See. En revanche, ça a été mis en place par certains acteurs du secteur qui ont fait ça très correctement. Et je me permets, Minter, de donner un exemple ici. C'est un vin qui s'appelle 19 Crimes, qui est un vin australien. Et 19 Crimes, l'expérience qu'il propose est assez incroyable. C'est une cuvée qui, du point de vue marketing, c'est un nom qui fait référence à une liste d'infractions qui étaient passibles dans l'Angleterre du 18e siècle jusqu'au début du 20e. Une liste passible de mort ou d'exil en Australie. L'Australie était alors sous domination britannique, comme tu le sais. Et les condamnés qui étaient envoyés devaient endurer les travaux forcés. Donc, ce n'était pas forcément très, très sympathique. Le cépage de ce vin 19 Crimes, c'est du Cabernet, du Shiraz, du Chardonnay, et ça passe ici relativement au second plan. Ce qui compte là, avec cette marque, c'est l'expérience qu'on vit lorsqu'on dirige l'objectif de notre smartphone vers l'étiquette. Et là, tu vois l'écran, sur l'écran, la photo d'un bagnard s'animer et raconter son histoire.
Donc, ça, c'est en reality augmenté, c'est ça?
C'est absolument réalité augmentée, exactement.
Alors, donc Boris, c'est marrant ce que tu racontes parce que j'ai eu l'occasion de travailler avec Rémy Cointreau, donc j'ai un peu goûté, on veut dire, à ce monde de vin et spiritueux. Et plutôt par un constat de citoyen et consommateur, pas un œnologue, un peu avisé quand même, quand je vais dans une boutique de vin, je vois un colossal nombre de marques et de vins et je me perds constamment. Je trouve que c'est un secteur qui est dispersé, dans le sens où il y a juste quelques grands joueurs et pour le reste, c'est des petits fournisseurs. Et donc, du coup, si j'ai une histoire à raconter, bon, moi, mon histoire, c'est les 4 hectares de ce coin de Bordeaux. Et puis l'autre, c'est les 4 hectares du voisin. Voilà. Et en fait, si on essaye de sortir du lot avec son histoire, il y a un grave risque que ça ressemble l'un à l'autre, tellement il y en a. Or, en fait, quand on revient sur le vin australien dont tu parles, 19 Crimes, là, ils ont créé leur histoire. Ils l'ont fait par des marketeurs. Là, forcément, c'est le nouveau monde du vin. Et ils ont conçu l'idée, j'imagine en tout cas, par rapport à quelque chose qui a été créé en 1800. Et donc, même si dans les spiritueux, on va dire, il y a tellement de gins, de vodka, et c'est difficile de sortir une histoire avec autant de choix sur le linéaire. Comment est-ce qu'on peut faire face à ça et quelles astuces tu as vues qui a marché et qui n'a pas marché par ailleurs, parce que c'est toujours bien de citer ça, dans cette envie de faire ressortir l'émotion, l'histoire, etc., notamment par le digital, mais pas que.
L'offre des vins, effectivement, des spiritueux et des vins en particulier, elle est extrêmement atomisée. Elle est très, très, très atomisée. Et finalement, les enjeux auxquels on fait face dans cet univers ne sont pas si différents des autres secteurs du luxe ou des produits premium, en fait. Il s'agit d'émerger face à l'élargissement d'une proposition qui est toujours plus sophistiquée, qui est toujours encore plus de qualité et qui est originale. Il y a ce canal digital qui commence à être utilisé, en fait. On passe dans le secteur des vins, on passe d'un marketing qui était très channel-oriented marketing, qui consistait en fait à produire des éléments qui allaient plutôt en direction des négociants, qui eux-mêmes mettaient ça en place, mais un traditionnel dans leur magasin.
Bon, on a connu ça dans la beauté aussi, où il y a des canaux de distribution.
Ouais. Exactement, et c'est un bon exemple, parce que la beauté aujourd'hui, tu vas dans un petit magasin, chez un parfumeur, la navigation, elle est plutôt très cohérente. Elle est peut-être discutable, telle ou telle marque, mais il y a une vraie circulation proposée en fait à celui qui voudra découvrir la marque. Tu rentres effectivement aujourd'hui chez un négociant en vin, il va y avoir pléthore d'offres, tu vas t'y perdre en fait, et sans vraiment comprendre comment t'y retrouver. Tu vas avoir une approche différente, c'est intéressant. Aux États-Unis, tu auras une approche qui sera très par cépage. Tu auras une approche qui s'attrait Merlot ou Chardonnay ou Cabernet. En Europe, en France, tu auras une approche qui sera un petit peu plus par région, avec une approche qui sera très, très, très centrée sur les vins français, évidemment. Hein. C'est la très grande majorité des vins qui sont vendus en France, sont des vins français. Dans tous les grands pays producteurs de vins, Italie, Argentine, l'offre locale est très, très principalement, justement, fait référence à ces produits locaux. Comment émerger dans cet univers en contribuant à raconter des histoires, mais différemment de ce qu'on a pu faire par le passé. Il y a une tendance assez forte qui se dessine aujourd'hui dans le monde des vins, dans le monde des spiritueux, c'est un retour aux sources. C'est un retour à la sincérité, à l'authenticité du travail des artisans qui sont derrière ces vins. Un travail de la vigne, en fait, au château. C'est le travail des artisans et c'est le travail de la terre. Un enjeu majeur qui consiste à travailler les produits dans un sens beaucoup plus respectueux de l'environnement, en prenant en compte la viticulture et la vinification, voire en limitant l'interdiction des intrants, les traitements synthétiques, les insecticides, et en partageant les bonnes pratiques qui sont en forte accélération. C'est poussé par une demande accrue des consommateurs pour des produits bio ou biodynamiques. Et tu as plusieurs écoles qui se débattent ici sur les techniques qui sont adoptées, mais tous convergent vers la nécessité de respecter une terre qui ne nous a pas été donnée, mais qui nous a été prêtée. Et quand on travaille autour de ces messages et autour de ces messages très forts, de fond, le buzz, mine de rien, par les réseaux sociaux, se crée, un impact positif, permet de contribuer au renforcement de la marque. Et la qualité aussi suit derrière. Tu as une marque, un domaine comme Pontet-Canet à Bordeaux, qui propose un formidable vin depuis des décennies. Et son régisseur, qui s'appelle Jean-Michel Combes, hein, qui est un type formidable, qui est un type incroyable, a été vraiment pionnier dans la biodynamie. Il a mis en place cette technique. Il a été pris au départ pour quelqu'un de plutôt original dans la région, à Bordeaux. Et puis finalement, il a réussi à te sortir un vin qui non seulement respectait de manière idoine la terre et propose aujourd'hui un vin qui a gagné en qualité et qui a également, du coup, été apprécié dans son tarif. Aujourd'hui, les vins de Pontet-Canet sont reconnus, archi reconnus, et notamment par une approche de qualité qui s'est traduite au départ par une biodynamie poussé et original. Il y a toujours cette recherche aussi de ces vins boutiques. Cette notion de boutique, de boutique winery est très importante.
Mais sont attachés arrive à cette le notion problème de boutique. de l'échelle d'économie. Car en fait, si on est tout petit, on n'a pas la capacité, enfin la possibilité d'avoir des prix de revient plus bas, etc. Donc du coup, enfin, comment est-ce qu'on fait vivre tout le monde alors qu'on est boutique? C'est le problème de la niche, parce qu'en fait, dans le luxe, on est niche, donc on va devoir avoir des prix élevés. Pour justifier ces prix élevés, il faut avoir quelque chose de vrai, parce qu'aujourd'hui, on renifle le bullshit. Et quand bien même on veut revenir, par exemple, aux sources, comme tu dis, moi, j'ai un parallèle avec ça, c'est que j'ai travaillé avec des fermiers de cannabis. Et c'est pas mal similaire, car en fait, ça dépend du terroir. Et la différence entre nous, un shit du nord de Californie et un shit du sud de Californie, bon Dieu, bon, ok, ça fait à peu près le même effet. Et là où ça devient intéressant, c'est que non seulement c'est un peu commodity, c'est-à-dire que le produit devient banal, même si bon, c'est que on est aussi sur un terrain dans le spiritueux et alcool où il y a des travers. Je parle pas de l'aspect légal, mais le travers de trop boire, d'avoir un
Bien sûr.
dégât, d'avoir un accident en
Bien sûr.
étant sous l'effet, que ce soit le cannabis ou l'alcool. Et donc, il y a une responsabilité là-dedans, alors que derrière, je veux vendre. Donc, cette contrainte, parlons pas de l'aspect légal, mais l'aspect éthique. Et fondamentale. Et j'imagine, enfin, je voulais savoir comment est-ce que vous y arrivez à travailler ce dichotème, parce que c'est pas comme une pharmacie où c'est des consignes. Il y a quand même la possibilité de boire autant que tu veux et de vendre autant que tu veux. Tu vas pas arrêter à dire à quelqu'un, bah, vous pouvez pas prendre 18 caisses de ce Château Margaux. Comment est-ce que vous faites?
Je crois on en appelle avant tout à la responsabilité de chacun. On ne peut pas se retrouver à côté de chacun des consommateurs pour
C'est vrai.
surveiller cette
Soyons
responsabilité.
adultes, soyons
On
adultes.
souhaiterait, soyons adultes. Le sujet est aujourd'hui aussi plutôt très réglementé par une loi EVA en France et par d'autres lois un peu partout dans le monde. Et ces lois sont nécessaires. Nécessaire parce que on constate d'année en année les accidents qui sont dus à une trop forte consommation d'alcool diminuent, mais restent toutefois toujours trop important. On en appelle donc au cadre légal qui est là, qui s'impose à nous, mais qui est plutôt positif, qui est plutôt une bonne chose pour la santé de tous et avant tout à la responsabilité de chacun. On parle de marque aussi. On parle de marque et c'est intéressant parce que quand on parle des vins, finalement, moi, j'ai longtemps, comme toi, on a travaillé sur des marques, sur des véritables marques, en fait, dans le secteur des cosmétiques, dans l'univers de la gastronomie, en ce qui me concerne aussi.
La durée.
L'approche est très, très différente. Un beau la durée, une belle maison la durée, mais l'approche est très différente quand on parle des vins spiritueux. Car si les grands noms du champagne sont généralement des marques au sens marketing du terme, hein, avec les éléments d'identification forte et de fidélisation qui caractérisent traditionnellement la marque, dans les vins, c'est assez différent. Les vins et les domaines sont perçus avant tout comme des terroirs et des origines aux yeux des consommateurs. Très, très difficile de fidéliser une personne à un même vin. Tu vas très rarement avoir un consommateur d'un vin en question.
Mais d'autant plus que
ne boira que de ce vin-là.
D'autant plus qu'une année sur l'autre, enfin, le cru est différent, donc.
Le millésime change, ouais. Ça rajoute beaucoup en complexité dans l'explication, dans la compréhension du vin. C'est parfois perçu comme certains consommateurs novices qui n'osent pas entrer dans le monde du vin et s'attaquer de manière positive à l'œnologie comme un frein, en fait. Un frein à la connaissance et à la compréhension du vin. Il faut le prendre plutôt comme un élément de sophistication qui rajoute à la magie du vin. Mais qui font que, au final, tu vas avoir une population qui sera très très apeuse. Tu vas avoir ici et là des consommateurs qui, dans le champagne, ne boiront que du Krug, ne boiront que du Dom Pérignon. Il faut un certain budget, certes, mais qui vont rechercher cette excellence et qui vont rechercher une forme de constance dans le goût, même si ici les patrons de ces maisons-là. Voilà, ne seront pas tout à fait d'accord avec mes propos. On n'a pas strictement un goût identique, mais il y a une sorte de constance et de signature qui est recherchée, évidemment. Dans les vins, ça sera relativement différent. Tu auras des nuances d'un millésime à l'autre. Alors, les grands spécialistes reconnaîtront le même domaine, en fait, d'une année sur l'autre, certes, mais il y aura des nuances assez marquées en fonction du climat et tout simplement, et de la terre, etc. Mais tout simplement parce que dans les vins, tu n'as pas les mélanges auxquels on peut s'adonner dans le monde des champagnes. Ce sont des millésimes et uniquement des millésimes qui ne font appel en fait qu'aux raisins qui ont été récoltés lors de la précédente vendange. C'est aussi toute la magie du vin, c'est que tu fais avec le produit que tu as dans un temps donné et dans l'année donnée. Ça rajoute cette dimension de complexité et de sophistication dans le monde des vins. Donc il y a un travail autour de la marque ici qui est intéressant. Quelques obstacles qui sont rencontrés dans ne serait-ce que même la compréhension de ce qu'est un vin, qui est une forte nuance par rapport aux autres secteurs des vins spiritueux.
Je voulais juste regarder un dernier point qui est cette histoire de digital transformation, la transformation digitale. Car en fait, si on en parle depuis des années, on sait que la plupart des programmes de transformation digitale peinent à arriver au bout. Et pour avoir voyagé dans certains groupes de luxe, le sujet de la transformation digitale, alors que établi en 1800, je ne sais pas quoi, c'est parfois très difficile de bouger les esprits. Je voulais savoir quel est ton insight ou ton tip, trick, indice, comment améliorer, accélérer la transformation digitale, notamment dans un univers de luxe. Car en fait, le sujet, évidemment, est compliqué, car on a cette image qu'il faut conserver.
Absolument, mais je pense que cette transformation digitale, en fait, loin d'être un frein ou un danger aux marques de luxe, est au contraire un accélérateur. C'est une formidable opportunité pour les marques de partager un contenu et une expérience beaucoup plus forte que par les canaux traditionnels. Le digital est une formidable opportunité pour toutes les marques de luxe. Encore faut-il ne pas succomber au champ des sirènes qui promettent la révolution totale par un investissement aveugle dans le tout digital. Là, l'investissement doit rester mesuré. Mais on en revient à la notion du risque que tu évoquais tout à l'heure. On en revient à cette nécessité de penser les marques différemment. et de partager leur magie par un canal absolument moderne et génial qui est le digital et que sont les réseaux sociaux. On a moyen de renforcer et de prolonger l'expérience du goût de manière unique par le digital. Je pense à une initiative de la maison Ruinart, de la maison de champagne Ruinart, que j'ai trouvé absolument géniale.
D'ailleurs, c'est Ruinart, ma marque préférée de champagne.
Ah, tiens, tu vois. Est-ce que tu ne bois que du Ruinart ?
Non.
Ou est-ce que tu zappes d'un champagne ?
Non, mais j'adore Ruinart.
Écoute, Ruinart est arrivé il y a quelques mois de cela avec une initiative super impactante que j'ai trouvé vraiment, vraiment sympa et géniale. C'est l'expérience Petit R. Le Petit R, en fait, c'est... Ruinart a élaboré cette expérience immersive dans son univers en invitant des convives à découvrir son histoire, l'histoire de la maison Ruinart, autour d'une table. Et là, donc, tu t'assois, tu es au bord de la table et tu observes un mélange virtuel, immersif, entre l'histoire de la marque et une animation en réalité augmentée qui fonctionne plutôt bien visuellement, où tu as ce personnage, Petit R, qui se balade d'une table à l'autre par un système de projection d'écran sur les tables, c'est assez magique, et qui te raconte l'histoire de Ruinart au fil du temps et au fil des saisons. Donc, tu rentres dans l'histoire de cette maison de champagne qui est la maison de champagne la plus ancienne au monde, et tu découvres, en fait, en accompagnant un très bon repas et accompagné de Ruinart, tu découvres l'histoire de la marque et l'histoire de la maison. Cette capacité à entrer dans l'histoire de la marque n'est possible ici que par le digital. C'est la révolution digitale qui permet ce type d'expérience, qui prolonge l'expérience du goût ou l'expérience que tu peux avoir de manière classique dans une boutique au contact d'un vendeur, serait-il encore un spécialiste. Donc le digital a ce relais de découverte et d'expérience par rapport à la marque.
Et comment je peux avoir cette expérience, Boris ?
Il faut contacter Ruinart au 06.
Voilà. Écoute, comment est-ce que quelqu'un peut connecter avec toi ou suivre ce que tu dis, fais dans ta vie? Comment tu préfères?
Écoute, Minter sur LinkedIn, via mon profil LinkedIn, Boris Janisek. Et puis par email, mon adresse, c'est boris@janisek.net. Avec plaisir pour échanger et partager avec tes auditeurs.
Ben, génial. Boris, je te remercie beaucoup. Ça a été un
C'est
plaisir.
Moi qui te remercie. Merci, Minter. Merci et très, très bonne continuation à toi.
Merci de nous avoir écoutés sur Minter Dialogue en français. Vous trouverez tous les liens et références cités lors de cet entretien sur mon site minterdial.fr. Pour vous inspirer, je vous laisse avec une chanson que j'ai écrite dans ma jeunesse, A Convinced Man.
Stranger tucked around me, precipitating the danger to feel free. Trust is the reason, still I won't tell the lie. I sit here passively, hope for your respect, anticipating the thrill of your intellect. Maybe I tell myself there's no use in me lying. I'm a convinced man, building an urge. I'm a convinced man, to live and die submerged. A convinced man, in the arms of a woman. I'm a convinced man, challenge my fate. I'm a convinced man, competition's innate. A convinced man, in the arms of a woman. Despise revenges and struggle with deceit. Live for the challenge so life's not incomplete. What's wrong with challenge? I know soon we all die. I like the feel of a stranger tucked around me, precipitating the danger to feel free. Trust in my reason and let me show you why. I'm a convinced man, practicing my lines. I'm a convinced man, here in these confines. A convinced man in the arms of a woman. I'm a convinced man, put me to the test. I'm a convinced man,
I'm ready for an arrest.
I'm a convinced man, in the arms of a woman.
I'm Ken Harbaugh, host of Warriors in Their Own Words, a podcast that presents the unvarnished, unsanitized truth of what we have asked of those who defend this nation. As a country, we need these stories more than ever. Stories from Americans who have borne the battle, including 30-year-old remastered interviews with veterans from World War I recounting their time in the trenches of Europe, and with veterans from World War II, Korea, Vietnam, and from our most recent conflicts in Iraq, Afghanistan, and other battlefields Americans may never have heard of. Hear their stories by listening to Warriors in Their Own Words wherever you find podcasts.